décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 14, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire.
6 petits articles, mais sympathiques.
Actualité.com, un ancien de l'éducation nationale chez Amazon, Flore Pellerin dans les airs, par Antoine Houry.
Donc ça nous intéresse parce que l'éducation nationale a signé des contrats avec des entreprises et que là, il y a l'ancien justement signataire, donc j'ai oublié le nom.
C'était d'accord avec Microsoft, c'est abominable.
Exactement, et donc il va chez Amazon, ça fait toujours un peu bizarre.
On appelle ça le pantouflage.
Il passe d'un monopole à un autre. Développé.com, Richard Stallman remet en cause l'efficacité du RGPD par Mickaël Guillou.
Donc c'est un gros sujet le RGPD parce que ça arrive à grands pas, en tout cas son imposition aux entreprises va être bientôt, la protection des données. Mais Richard Stallman, il a un point de vue un petit peu contraire. Il préférait qu'il n'y ait pas de stockage et de récupération du tout des données, à moins qu'elles soient absolument indispensables au service proposé.
Next Impact, le 31 mars, Mozilla fêtait ses 20 ans par la rédaction.
Alors ça date de il y a déjà quelques temps, bien sûr, et c'était Netscape, une autre époque.
Numérama, messagerie anonyme et sécurisée, pourquoi Tor Messenger jette l'éponge, par Julien Lausson.
Sûrement dommage, une messagerie qui passe par Tor, c'était une idée intéressante, mais il semblerait que c'était très compliqué à faire bien, peut-être même que c'était impossible, en tout cas ils ont arrêté.
France TV Info, des sorties de la classe au musée, non, dans un magasin Apple, par la rédaction.
Alors tout le monde est offusqué par le sujet, par le thème, emmener les gamins pour faire une sortie scolaire dans un magasin, c'est choquant. Alors, en plus dans un magasin Apple, où on leur met en avant l'effet waouh de regarder tout ça, c'est super, et puis un jour vous pourrez vous en acheter vous-même.
Mais alors rassure-moi, c'est une proposition de sortie scolaire faite par Apple avec un petit kit ?
Non, c'est réel, il y a des profs qui emmènent leurs gamins l'après-midi ou autre au magasin et les vendeurs font l'aller comme quand il y a un nouveau produit qui sort et ils leur montrent les meilleurs produits parce qu'ils savent que ça va les rendre accro très rapidement et les gamins ils retournent chez eux et ils en veulent.
Non mais c'est juste inadmissible.
Ça choque tout le monde, il y a des vidéos et
pas
des photos.
Pas tout le monde manifestement puisqu'il y a des gamins qui vont là-bas. Mais c'est important d'apprendre à être un bon consommateur, je veux dire.
Oh
c'est la base de la vie en société.
C'est affreux.
Ouais, non, c'est bien dégueu.
Actualité.com, EPUB 3, la France avance dans la protection et la diffusion de BD numériques par Nicolas Gary.
Donc ça parle de DRM, les monotes numériques, il semblerait qu'il y en a des nouvelles qui arrivent, peut-être interopérables et même open source.
Non, c'est pas possible.
Bah, a priori, c'est pas possible, mais il y en a qui essayent.
Bah, si on a le code source, on pourra le contourner.
Exactement, et donc les gars, ils essayent de mettre ça en place, notamment pour des BD, des livres.
Mais ça n'a aucun intérêt si on a le code source, un DRM.
Ils vont essayer, peut-être que ce sera trop compliqué, ou en tout cas dans leur esprit, ou que ça dépendra d'une clé à télécharger de manière un peu bizarre. On ne sait pas encore, il faudra jeter un œil. En tout cas, ça va remplacer normalement les DRM actuels faites par Adobe. En tout cas, c'est le but de la chose.
En tout cas, j'en profite pour conseiller les gens d'aller voir la vidéo. Un livre électronique verrouillé par un DRM ne peut être comparé à un livre imprimé, parce que ça vaut le coup d'œil.
Oui, elle est pas mal cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement différent.
Un sujet d'actualité.
Voilà, on peut partir d'un fait divers, hein, parce que c'est toujours bien de parler de fait divers. La semaine dernière, ça a flingué au siège de YouTube.
Voilà, donc il y a une utilisatrice de YouTube qui mettait des vidéos en ligne, qui a débarqué au siège social de YouTube et qui a commencé à mitrailler un peu tout le monde et qui a fini par se suicider. Alors, il n'y a pas eu de mort à part elle, il y a eu des blessés quand même.
Des blessés graves.
Quand même. Attends, vous voulez dire graves. Que quand vous dites mitrailler, flinguer, c'est au sens propre du terme.
Ah,
quoi.
Oui,
elle est vraiment avec une arme. Okay.
Comme aux États-Unis, hein, c'est quelque chose qui se fait assez couramment, c'est juste que là, c'est un peu extraordinaire vu le lieu.
Et alors qu'avait fait YouTube ?
Apparemment, elle protestait contre les différents changements qu'il y a eu récemment dans la politique de YouTube, en fait, de publication, avec des histoires de démonétisation, de vidéos qui disparaissent ou autres.
Et donc, descente dans le promotionnel, c'est-à-dire qu'on ne gagne plus en notoriété, nos vidéos ne sont plus découvrables sur YouTube.
Voilà, alors cette femme, elle avait un certain nombre de centres d'intérêt. Elle était végane.
Végane, féministe, bodybuilding, faisait de la bouffe, du maquillage, enfin c'était assez
bizarre.
Elle
parlait de religion. Enfin,
même saison, elle aimait bien les flingues aussi.
Voilà. Et elle venait d'Iran. Et elle était, il semblerait, très connue en Iran, où ses vidéos circulaient beaucoup.
Bah, a priori, il n'y a rien de grave. Enfin, c'est bien d'être végane, s'intéresser aux armes, féministe.
C'est grave à partir du moment où tu commences à tuer des gens. Alors, pourquoi elle a été censurée ? Alors, certains diront, mais non, elle n'a pas été censurée, elle était paranoïaque, regardez comme elle est folle. Mais bon, il s'avère qu'il y a plein d'autres gens qui se plaignent d'être censurés. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, en commençant par le pognon.
Tout a toujours été une question de pognon. Hein. La première étape, ça a été la démonétisation en fait, des vidéos par YouTube, où à chaque fois qu'il y avait un sujet sujets un peu polémiques ou un peu sensibles. Donc il y avait déjà les sujets de base, hein, il y avait le sexe et autres, on n'avait pas le droit d'en parler.
Le fascisme, il me semble.
Le fascisme, enfin, il y avait vraiment toute une. Dès le départ de YouTube, il y avait ce panel de choses qu'on n'avait pas le droit de prononcer, pas le droit de montrer, sinon c'était démonétisation directe.
Le téton, c'est mal.
Voilà. Et après, il y a eu les problèmes sur les armes qui ont été démonétisées.
Alors oui, il faut quand même rappeler que s'ils ont démonétisé, donc ça veut dire qu'en gros, les créateurs ne recevaient plus d'argent. Bon, d'une part, la pub qui ramène l'argent, ça marche un petit peu moins bien. Et ça a commencé parce qu'il y a des annonceurs qui ont dit, mais en fait, vous mettez notre produit à côté de gens vraiment super bizarres et on n'aime pas du tout ça.
Est-ce que ça devrait pas être les gens qui font les vidéos qui disent, bah non, telle publicité, moi j'en veux pas.
C'est vrai que ça pourrait être aussi un enjeu, mais ça, c'était oui. pas le cas en
là,
tout
c'est
cas.
Plus, c'était plutôt dans le sens quoi, général, c'est du coup, bah, voilà.
Le pouvoir du côté du pognon en général. Hein.
Et typiquement, il y avait des publicitaires ou des concessionnaires ou des choses comme ça, ou des marques de bouffe en Amérique qui ont dit, bah non, je veux plus être sur des vidéos bah, d'armes. Il y a eu aussi des trucs sur les crypto-monnaies qui ont été interdits parce que bah, ça faisait du scandale ou autre. Et donc, YouTube a dit, maintenant, ces vidéos de ce sujet-là, on ne les monétise plus et donc vous ne recevez plus d'argent à chaque fois que quelqu'un voit une vidéo.
Manifestant des trucs vegan et féministes, sans doute aussi.
Non, ça, c'est assez bizarre quand même. Par contre, aussi pas mal de vidéos sur tout ce qui est conspiration, ouais. Fake news, hein, de manière générale, parce que c'est très à la mode en ce moment. Et YouTube, ils ont reçu leur part de critiques parce qu'ils avaient laissé passer plein de choses là-dessus.
Et après, ils ont quand même monté un niveau hein, parce que bah, y avait encore des vidéos à tourner avec sur ces sujets-là. Et donc, ils ont décidé carrément de striker les vidéos. C'est-à-dire que quand vous publiez une vidéo qui commence à être un peu polémique ou autre, bah, on vous la vire.
Avant ça, ils avaient quand même cacher un peu les éléments, c'est-à-dire qu'en gros, elles remontaient pas dans les propositions.
Et du coup, là, voilà, les vidéos ont carrément disparu, et donc il y a des gens qui se sont retrouvés avec des comptes complètement vierges. On a eu un cas, un Français, Raptor Dissident, qui était un facho d'extrême droite, avec plein de vidéos.
Qui est toujours d'ailleurs.
Et qui est toujours, il a pas changé malheureusement. Et il est passé, toutes ces vidéos polémiques ont complètement disparu, et donc il lui reste plus qu'une dizaine de vidéos sans aucun intérêt. Enfin, les autres d'avant n'avaient pas d'intérêt non plus, mais maintenant il y en a encore moins.
Alors, tu le connais notamment parce qu'il a été défendu.
Bah, il avait été défendu par Pouillou et d'autres personnes libristes en disant, bah, c'est pas normal qu'on puisse virer des vidéos comme ça, même si on n'est pas d'accord avec ça.
La question de la liberté d'expression.
La question de la liberté d'expression. Et on n'a pas compris parce qu'ils s'en sont pris plein la tête de la part de Raptor Dissident et de la communauté qui se sont attaqués à ceux qui les défendaient. C'était quand même assez marrant.
Bah moi, du coup, j'ai une proposition pour tous ces gens dont les vidéos disparaissent ou sont totalement démonétisées. Ils ont qu'à les mettre ailleurs. Et donc, dans ces cas-là, je vais saluer le nouveau service de Framasoft qui est en version bêta pour l'instant, mais qui est Framatube et qui est basé sur Peertube.
Et oui, effectivement, il y a une super initiative libriste, Peertube, qui est développée par quelqu'un chez Framasoft.
Voilà, il s'appelle Chocobuzz et il a pris des briques déjà existantes basées sur BitTorrent, c'est ça ?
BitTorrent et WebTorrent.
WebTorrent.
Et donc des outils de peer-to-peer, de pair à pair.
Voilà.
D'où le nom Peertube.
Et ce qui est génial, c'est que chacun peut créer une instance sur son propre serveur et diffuser les vidéos qu'il veut et n'importe qui peut aller les récupérer et ça se passe par petits bouts, par petits bouts, par petits bouts et on a à la fin une vidéo en entier.
Ouais, ça a des bons avantages, hein, même pour le réseau en particulier, parce que YouTube, bah, tout est chez YouTube et donc du coup quand vous demandez des vidéos, vous avez votre demande qui est très très légère et puis de l'autre côté vous avez la grosse vidéo d'un giga qui vous revient dans la figure.
Et ça crée des problèmes. Hein,
ça crée des problèmes, ça crée des bandes passantes.
C'est atroce pour YouTube. Hein.
On a vu bah, les polémiques avec Free et YouTube bah, qui y en avaient marre de payer pour le réseau de YouTube et autres, alors qu'en version décentralisée, bah, du coup vous allez peut-être récupérer des morceaux chez votre voisin, de l'autre côté de la planète, et du coup ça homogénise complètement le réseau, et donc il n'y a plus de points de contention, il n'y a plus trop de problèmes au niveau technique.
L'idée donc c'est qu'on a une source, hein, un serveur, il n'a pas besoin d'être absolument énorme comme les infrastructures de Google qui arrosent tout le monde, parce que dès lors qu'il va commencer à la distribuer à quelques utilisateurs, quelques personnes qui vont visionner, ces personnes-là elles-mêmes vont repasser les informations à d'autres personnes qui veulent visionner derrière. Et donc du coup le machin se dimensionne en fonction des besoins.
Plus on est nombreux à regarder une vidéo, plus d'autres personnes vont pouvoir la regarder, il y a un côté entraînement, c'est le torrent, ça entraîne les uns derrière les autres et on partage de mieux en mieux. Donc normalement, c'est taillé pour Internet.
Du coup, ça va poser quand même des questions sur la légalité, qui est responsable de quoi, parce que chacun a son instance. Donc en gros, une association ou un particulier peut dire, moi, je crée mon propre nœud.
Et c'est déjà le cas, hein. il y en a quelques-unes, des instances.
Il y en a combien?
Oui, il y en a pas mal.
Ça remonte tous les jours.
Voilà, ça augmente. Je sais que Framasoft a la sienne, je sais que les Geek Ferries ont la leur, la Quadrature du Net.
Passage en scène à la sienne, la Quadrature du Net.
Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, même si on n'a pas la vidéo chez soi, on affiche les vignettes des vidéos des autres nœuds. Et donc du coup, si par exemple Manu, hein, parce que Manu il est pas très honnête, il monte sa propre instance sur laquelle il met des films piratés, ça veut dire que l'instance de Magali va se mettre à afficher des films pirates qui sont en fait hébergés sur Manu. Mais du coup, peut-être que la police va venir et dire à Magali, mais pourquoi tu donnes à regarder des films pirates ?
Bah, ça risque d'être assez marrant au niveau légal, effectivement, parce qu'on a déjà le problème aujourd'hui avec les annuaires torrent, on a eu l'affaire Pirate Bay, il y en a plein d'autres comme ça qui ont disparu, il y avait T411 qui a été fermé aussi en France. Techniquement parlant, ils n'ont rien à se reprocher, ils hébergent pas les données, ils sont juste un annuaire qui donne les liens vers les données. Peertube rajoute encore un niveau, parce que du coup on a un annuaire d'annuaire de liens vers des clients, enfin c'est un vrai merdier, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir les ayants droit.
C'est pas un merdier, c'est un trésor accessible à tout le monde.
Voilà, c'est ça, c'est du partage de culture, mais les ayants droit, ils aiment pas qu'on partage la culture, eux ils veulent récupérer de l'argent et donc ils aiment pas ça et donc ils risquent de jouer avec la loi pour
c'est un retour de balancier assez sympa, puisque ça fait quand même quelques années que tout le côté partage de culture, et je parle même pas nécessairement de piratage, on aurait intérêt à partager de la vraie culture, celle qu'on possède, celle qui est vraiment à nous, et ben on prend un peu des claques, et là c'est pas mal de voir ce mouvement là moi ce que je trouve très intéressant, c'est que derrière il va y avoir de l'humain, c'est-à-dire que la petite structure qui va monter son nœud, elle va être obligée de gérer ça en se disant, bah peut-être que je vais couper le lien vers ce serveur qui ne fait que des films piratés parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de prendre le risque, et puis en plus de ça je suis pas là pour ça. Et ce que je trouve intéressant par rapport à cette question de l'humain, c'est que même de l'autre côté, du côté des GAFAM, des grosses structures, Google, YouTube, une des choses qu'ils ont annoncé récemment, c'est que pour leurs vidéos de théorie du complot, ils allaient faire des liens vers Wikipédia dans les pages. Donc ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes incapables de faire le tri, ils sont incapables de contre-argumenter, donc ils s'appuient sur quoi ? Sur un réseau d'humains qui produisent du savoir ensemble.
Et même les vidéos qui sont suspendues ou démonétisées, il y a aussi des effets de bord justement parce qu'ils n'ont pas les humains pour aller les voir. Donc ils sont obligés d'y aller à la truelle parce que dès qu'ils ont un terme, allez, armes, mes crypto-monnaies et autres, on coupe. Alors que peut-être que la vidéo était intéressante parce qu'elle était éducative ou autre, mais il y a des termes qui font...
On peut parler intelligemment de tous les sujets.
Ouais. Alors là, on pourra supposer que pour Peertube, chaque administrateur d'instance sera responsable de la politique qu'il va mettre en place, et ce sera un peu comme Mastodon. Ça va sûrement créer des problèmes, ça c'est inévitable, il y a de l'humain.
On attend
y aura
voir...
une politique à définir.
On attend de voir les premières instances japonaises se ramener, on va encore avoir des trucs marrants comme sur Mastodon.
Un des avantages que moi j'y vois, c'est qu'il n'y a plus cette question de monnaie, de publicité, de se faire des sous derrière le dos des gens, et les vidéos qui arriveront en tête seront forcément celles qui sont le plus vues et pas forcément celles qui sont
le plus... Il y a quand
même un
truc que je donnerais au crédit de YouTube quand même, c'est qu'ils ont quand même réussi à financer et être payés pour ton travail, c'est quand même pas mal. Alors certains sont devenus extrêmement riches, et ce qui se justifie jamais, mais t'as quand même plein de gens qui ont réussi à avoir le temps de faire des trucs de qualité. Et il y a plein de merde, mais il y a aussi des trucs. Et ça, sans être payé pour le faire, c'est quand même difficile.
Mais non, mais
de
ça, c'était valable il y a 10 ans, jusqu'à 5 ans. Maintenant, même les gens les plus connus, même les gens qui ont le plus de fans, n'arrivent plus à en vivre.
Oui, oui.
Donc tout le monde se lance là-dedans, de genre, ouais, je vais faire des sous. Et puis finalement, plus
que
maintenant.
Non, ils en vivent. Hein.
Alors, il y en a peut-être 3-4 qui en vivent, mais quand on discute avec les artistes des Geek Ferries, il y en a plein qui n'en vivent plus.
Et après, Peertube, il y aura quand même aussi le problème de l'argent. Parce que ce type de serveur de contenu, en fait, ça coûte très très cher. Les vidéos sont très très lourdes à stocker. Ça demande des serveurs qui sont des bêtes de compétition pour faire de l'encodage vidéo, des choses comme ça. Et donc, il va falloir voir à long terme comment on les finance. L'argent ira peut-être pas du coup à ceux qui produisent le contenu, mais à ceux qui vont faire tourner les instances. Et malheureusement, ça sera certainement pas gratuit pour des instances assez grosses.
Ouais. Et puis, sur cette question de l'argent, il y a eu déjà un glissement, alors qu'il touche pas tout le monde parce que c'est beaucoup plus élitiste, qui est de se faire financer directement par les gens qui nous regardent et avec des systèmes de type Patreon ou des choses comme ça, où on dit, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez que j'en fasse de nouveau, filez-moi des sous. Et il y en a quand même un certain nombre qui arrivent, qui ont réussi à basculer du modèle de la pub à ce modèle beaucoup plus sain de se faire payer par ses fans.
Et là, du coup, tu es rétribué suivant ton travail réel.
Voilà. Mais il y a toujours cette question de la notoriété, parce que c'est une des choses qui est critiquée notamment dans la politique de YouTube. Donc, comme on le disait, on a démonétisé, mais ils ont également, avant d'interdire de façon pure et dure certaines choses, commencé à faire disparaître les vidéos. Et les gens, même s'ils arrivaient à se financer par les dons, ils ont ce problème, comment j'arrive à toucher un nouveau public, parce qu'il y a des gens qui se lassent et qui arrêtent de donner, c'est normal. Et il y a cette question de vraiment comment je construis ma notoriété. Et aujourd'hui, dans Peertube, je ne vois pas de réponse super claire à ça, qui pour moi reste un sujet entier.
Bah ça, ce sera du bouche à oreille, hein, généralement, qui va fonctionner, ou peut-être de l'humain, et les réseaux sociaux à côté.
Un système de recommandations avec un minimum d'apprentissage, et puis aussi le fait qu'on va attendre de l'éditorial de l'humain, c'est-à-dire que les instances vont probablement proposer avant tout certains contenus bien définis, et donc on pourra se pencher, se retourner vers une instance, parce qu'on sait qu'elle va proposer ce qui nous intéresse plus facilement.
Mmh. Du coup, je vais faire ma petite libraire, puisque vous aimez bien ça. Le 18 mai de cette année va sortir YouTube, derrière les écrans, ses artistes, ses héros, ses escrocs, dont l'auteur est Vincent Manilev. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un journaliste qui va nous faire vraiment découvrir les secrets de YouTube, et je pense que ça vaudra vraiment le coup.
Très bien. Eh ben, merci à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Bonne semaine à tous.
Et on mangera du RGPD la semaine prochaine.
C'est possible, mais il faut qu'on lise les articles. C'est touffu quand même.
Et il y en a beaucoup.